cette semaine, bien sûr, l'analyse de notre ami Daniel Haber va se porter sur la visite de Benjamin Netanyahu à Washington. La question est de savoir si elle a fait avancer la situation géopolitique israélienne. On écoute Daniel Haber, il est comme d'hab au micro de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous comme tous les lundis matins pour décrypter l'actualité géopolitique dans nos traditionnelles conversations. Alors Daniel, la semaine dernière, Benjamin Netanyahou était à Washington. Il a rencontré le président Donald Trump. Il a rencontré un grand nombre d'exécutifs américains. Cette visite a-t-elle fait avancer la situation géopolitique d'Israël selon vous?
Oui, c'est la bonne question. La réponse est oui. Oui. Si vous voulez, le principal résultat, c'était cet affichage public de la proximité stratégique entre les deux hommes et donc entre les deux pays. Pour Israël, c'est fondamental. Au fond, ils viennent de faire la guerre ensemble. Je crois que c'est la première fois que c'est arrivé sur le même ennemi. Et au fond, ils sont réunis pour faire ensemble, pour construire un Moyen-Orient de paix ensemble. Donc jamais la proximité des deux pays, qui a un caractère extrêmement stratégique pour Israël, n'a été si étroite. Et donc c'est vraiment le principal résultat. Alors sur le fond, on ne sait pas beaucoup de choses parce qu'il y a énormément de négociations qui se déroulent non seulement à Washington, mais aux quatre coins de la Terre, notamment au Caire et à Doha, au Qatar. Et donc on est un peu condamné à la chasse aux commentaires, aux indices pour essayer de deviner un petit peu ce qui se passe.
Alors justement, hein, Daniel, que se passe-t-il? Comment peut-on deviner un avenir pour la situation à Gaza et pour la suite de cette guerre?
Alors, Gaza, ça reste évidemment le sujet principal de la négociation. On ne sait pas que c'est pas le point le plus important, en tout cas pas du point de vue américain, mais c'est le plus urgent. Si vous voulez, pour Trump, lui, vous avez vu, c'est l'homme des cessez-le-feu. Donc, chaque fois qu'il peut cocher une case, j'ai réussi à faire un cessez-le-feu. Donc, il faut subir cette pression. Mais il faut dire aussi que pour Israël, c'est aussi urgent parce qu'il y a des otages. Il y a 20 otages vivants au moins. Et donc, ça presse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'après tout ce qu'on entend sur Gaza? On voit que le Hamas résiste. Il veut rester. Il veut rester à Gaza, c'est sa stratégie. Et au fond, plus il s'accroche, plus il gagne du temps, plus Israël est obligé d'être présent, de bombarder et d'alimenter cette campagne médiatique épouvantable de démonisation d'Israël. Donc, si vous voulez, lui, Hamas, il reste un peu inflexible alors qu'il est défait. Bon, c'est comme ça. Et donc, on est obligé de partir de là. Et donc le temps, finalement, n'est pas très favorable à Israël. Et parce que pour vaincre le Hamas, s'il n'accepte pas de se faire désarmer, c'est long. C'est long et justement, c'est trop long. Il y a les otages qu'on ne peut pas laisser croupir encore plus. Il faut mobiliser beaucoup de ressources. Il y a des risques pour les soldats. Il y en a qui meurent. Et puis, comme je le disais, c'est Gaza qui alimente cette campagne de démonisation d'Israël, et donc c'est quand même pas une bonne chose. Alors, mais inversement, tant que le Hamas est là, on peut rien faire. Il n'y aura pas de solution à la question palestinienne. Il n'y aura pas même l'extension des accords d'Abraham. N'oubliez pas que le 7 octobre a été fait en partie par le Hamas pour empêcher la signature d'un accord entre l'Arabie Saoudite et Israël, c'est-à-dire une extension de ces fameux accords d'Abraham qui sont le cœur de cette réorganisation du Moyen-Orient dont on parle. Donc, si vous voulez, c'est une impasse, hein, on le répète à chaque fois, et donc on sent bien qu'Israël va être obligé d'accepter une solution qui soit pas satisfaisante complètement, et donc on s'achemine non pas vers un cessez-le-feu, mais vers une trêve de 60 jours, qui nous ramène d'ailleurs à l'accord de cessez-le-feu du 19 janvier. Qui avait vu cet échange partiel d'otages, et puis il fallait ensuite négocier la fin des opérations. Et Israël avait dit, non, je peux pas me retirer de Gaza, et donc on avait repris les opérations. Et là, on va retrouver un petit peu la situation du 19 janvier, avec un échange partiel d'otages, la moitié, peut-être 10 vivants. Je pense qu'on obtiendra le fait que le Hamas s'abstiendra de faire ses mises en scène macabre, mais il faut pas oublier que ça va durer 60 jours pour rendre 10 otages. Donc ça va être très long et très dur sur les nerfs des familles d'otages, de tous les Israéliens et du monde entier. Et ça posera deux questions, ces 60 jours. Pendant ce temps-là, quand on organise l'aide alimentaire, sachant que l'aide organisée par les Américains, ce fameux Gaza Humanitarian Foundation, fonctionne, mais donne l'occasion au Hamas de tirer dans le tas et d'accuser Israël, bref, etc. Et puis deuxièmement, on va revenir à la question, qu'est-ce qu'on fait après les 60 jours?
Oui, justement, Daniel, on en parle beaucoup de cette trêve de 60 jours. Je vous propose de faire un saut dans le temps en avant. Selon vous, que va-t-il se passer après cette trêve des 60 jours?
Je ne sais pas, et personne ne le sait, mais ça sera un carrefour de décisions. La première chose, c'est que Israël va négocier, ça sera donc une négociation où Israël va négocier de quoi il va se retirer. Il va se retirer une grande partie de Gaza, mais il va pouvoir conserver un certain nombre de positions stratégiques. Donc ça sera la première négociation. La deuxième, c'est est-ce que le Hamas reste à Gaza ou pas? Est-ce qu'il reste pas du tout? Est-ce qu'il reste en partie? Mais qui sera complémenté par des représentants de l'autorité palestinienne et aussi par des éléments des pays arabes frères, égyptiens, jordaniens, saoudiens. Et puis quel droit de regard Israël gardera sur les problèmes de sécurité. Donc voilà une négociation très lourde. La deuxième, évidemment, il faudra élargir la négociation à ce qu'on appelle la question palestinienne. Il faudra qu'on la reprenne, cette question palestinienne. On peut pas uniquement l'évacuer puisque elle a été remise un petit peu au centre du Moyen-Orient et donc est-ce qu'on peut imaginer une solution et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faudra enlever, je l'ai dit à plusieurs reprises, la gestion de la question palestinienne des mains de l'Iran. Des mains des frères musulmans, c'est-à-dire finalement il faut l'enlever des mains du Hamas. Et donc ça ramène au centre de tout. Tant que le Hamas existe, on ne pourra pas vraiment avancer dans cette question palestinienne. Or, et ça c'est le plus important, la vraie négociation qui va reprendre, c'est entre les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite. Cette négociation qui avait été interrompue le 7 octobre, faut la reprendre. Et on sait que la condition que met l'Arabie Saoudite pour reprendre la négociation, c'est ouvrir une perspective à la question palestinienne. Donc, on a entendu Netanyahou dire oui, pourquoi pas, ouvrons une perspective où les Palestiniens peuvent se gérer de façon autonome sans nous menacer. Donc, on voit qu'il y a des possibilités d'accord, mais tout ça dépend évidemment de l'élimination, au moins politique, du Hamas. Voilà, voilà la négociation qui va s'entamer.
Oui.
Après les 60 jours.
Juste après ces 60 jours, Daniel Habert, si vous pouviez conclure ces conversations, que diriez-vous?
Alors, si vous voulez, depuis qu'on a mis fin aux opérations militaires lourdes le 24 juin en Iran, bientôt, ça sera évidemment la fin des opérations à Gaza, ça ne peut pas encore attendre des mois. Va s'ouvrir une longue période de négociations, très compliquée, on aura l'occasion d'en reparler plusieurs fois. Qui va négocier? Ben, les Américains, les Israéliens. On voit que la France essaye de trouver une voie de participation à la négociation via l'Arabie Saoudite. On va réentendre parler de cette reconnaissance d'un État de Palestine avec une conférence franco-saoudienne, on verra un petit peu ce qui en sortira. On voit aussi que les deux grandes puissances contestataires que sont la Russie et la Chine observent ça de loin, mais on ne pourra pas les garder éloignées trop longtemps parce qu'il faut quand même qu'elles consolident s'il y a des accords. Mais que, bon, donc au fond, tous ces mois qui vont être consacrés à la négociation, bah, c'est mieux que des mois de guerre, donc c'est bien pour Israël. Par contre, il y aura toujours cette épée de Damoclès, l'islamisme, le Hamas toujours, les frères musulmans, l'Iran qui est toujours dirigé par une théocratie islamiste, toutes ces milices sunnites qui grenouillent dans tout le Moyen-Orient et qui vont essayer de faire capoter toutes ces négociations. Donc, on entrera dans une longue période où Israël essaiera de bâtir avec les Américains quelque chose qui ressemble à la paix.
Daniel Aber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles conversations.
À la semaine prochaine, au revoir.